Allô tout le monde et bienvenue au balado 9-1 Behind the Scene, le balado québécois qui met l'emphase sur le métier des répartiteurs d'urgence. Je devrais peut-être changer mon intro parce que ça fait presque 2 ans que je suis là-dessus. C'est tout le temps le même. J'espère que vous allez bien, puis je dis allô à ceux qui me regardent sur Patreon. C'est la première fois que je fais une vidéo complète, j'espère que ça va fonctionner. J'espère que vous allez bien puis que vous êtes prêts pour l'épisode d'aujourd'hui parce que ça n'en est tout qu'un. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 90, donc déjà en partant, vous comprendrez que l'appel 911 est pas trop de qualité. C'est vraiment cacophonique, mais je tenais à vous partager l'histoire ainsi que l'appel 911 parce que ça démontre bien comment ça peut être difficile de comprendre avec tous les bruits autour quand l'appelant est paniqué et crie sans cesse. L'histoire d'aujourd'hui est un véritable rabbit hole américain. Je sais pas c'est quoi le nom pour cette expression en français. Elle a été étudiée par des centaines de personnes qui ont essayé de trouver la vérité. Des montants d'argent ont été dépensés dans les enquêteurs privés. Des analyses du langage corporel ont été faites et refaites. Puis aujourd'hui, je vous invite à écouter l'histoire le plus impartialement possible, même si ça peut toucher vos valeurs, surtout en tant que parent. Je vous avoue que pour ma part, je doute encore, même après avoir fait mes recherches puis écouté plusieurs entrevues. Le cas d'aujourd'hui est celui d'une mère de famille, Darlie Routier. Darlie Lynn Peck est née le 4 janvier 70 en Pennsylvanie, où elle va grandir avec ses parents et ses deux petites sœurs, Dana et Danielle. À la suite du divorce de ses parents, Darlie a déménagé avec sa mère dans la ville de Lubbock, au Texas. À l'adolescence, Darlie devient une jeune femme pétillante qui fait tourner les têtes et elle fait même partie de l'équipe de cheerleader de son école et c'est une véritable passion pour elle. Sa mère travaille dans un restaurant comme serveuse, puis Darlie va souvent la voir. Puis un jour, un nouveau cuisinier âgé de 17 ans fait son entrée au restaurant. Il s'agit de Darren Routier. À ce moment-là, Darlie avait 15 ans, puis les deux sont tombés follement amoureux. Darren demande la main à Darlie et le 27 août 88, le couple se marie et s'achète leur première maison. Darren décide de partir son entreprise avec l'aide de Darlie, qui se spécialise dans les tests de composantes électriques et très vite, il fait beaucoup d'argent et sa compagnie prend de l'ampleur au niveau international. Ça permet au couple de pouvoir rénover leur maison, de s'acheter une Jaguar, un bateau et de pouvoir se payer toutes les choses dont ils ont toujours rêvé. Les deux sont des personnes qui aiment bien paraître aux yeux des autres et de la société, puis ils en profitent. Le 14 juin 89, Darlie donne naissance à leur premier enfant, Davin, et le 19 février 91, elle donne naissance à leur deuxième enfant, Damon. En 93, la famille déménage dans une belle et grande maison. Ils voyagent à plusieurs endroits, puis pour Darlie, c'est vraiment important que ses enfants apprennent différentes cultures. La compagnie va bien, puis les deux garçons sont vraiment très proches. La famille vit une petite vie de famille qui ressemble pour plusieurs aux rêves américains. Darlie renvoie l'image de la petite maman de banlieue qui est jamais fatiguée, qui est toujours maquillée, coiffée, qui est toujours en train de cuisiner des bons repas pour sa famille, qui fait des biscuits pour tous les amis du voisinage. Les petits frères Routier sont toujours bien habillés avec du linge neuf, puis ils ont tous les jouets qu'ils veulent. Vu de l'extérieur, la famille Routier a de quoi faire envier toutes les familles du quartier. Et j'ai bien dit, vu de l'extérieur. Le 18 octobre 1995, la famille accueille leur dernier enfant, un troisième garçon, du nom de Drake, et la compagnie de Darren commence à piquer du nez. Ce qui fait en sorte qu'en quelques mois, il fait faillite. Darlie et Darren doivent maintenant se serrer la ceinture et arrêter de dépenser sans compter. Ils doivent s'en tenir au minimum et même vendre certaines choses qui leur appartiennent. Le couple ne va pas très bien à la suite de ce nouveau mode de vie. Darlie vit dans le déni, puis elle refuse de croire qu'il sera plus possible pour elle de vivre sa vie luxueuse. Sa santé mentale se dégrade, puis le 3 mai 96, elle écrit même dans son journal qu'elle veut en finir, puis elle réalise qu'elle ne va vraiment pas bien. Elle décide d'appeler Darren au travail pour lui demander de revenir à la maison. Il est aussitôt revenu à la maison, puis il a retrouvé Darlie couchée sur le lit en pleurant. Drake faisait sa sieste, et Damon regardait la télé. Elle lui a avoué qu'elle n'aimait pas la façon dont elle se sentait depuis ces derniers jours, qu'elle n'arrêtait pas de pleurer puis qu'elle n'aimait pas ça. Elle lui a lu ce qu'elle avait écrit dans son journal, puis Darren s'est même mis à pleurer. Il demande si elle avait un plan, puis elle lui répond qu'elle avait pensé à prendre différentes pilules. Le lendemain, Darren demande à Darlie comment elle va, puis elle répond qu'elle se sent beaucoup mieux malgré qu'elle se sente encore fragile. Il lui dit de l'appeler s'il y a quoi que ce soit. Darlie continue de se sentir up and down durant les prochains jours jusqu'à ce qu'elle tombe dans sa semaine pour la première fois depuis un an. Ce qui explique pour elle le changement émotionnel qu'elle a vécu ces derniers jours. La soirée du 5 juin, Darlie est à la cuisine et fait le souper. Une soupe au poulet et nouilles est déroulée. Les garçons jouent dehors, puis Darren arrive à la maison un peu après 18h avec Dana, la petite sœur de Darlie. Ils mangent tous ensemble et Darlie demande à son mari de réparer la clôture à l'extérieur parce qu'elle prévoit faire accoupler son chien avec le chien d'une voisine puis elle veut que le tout soit sécuritaire. Après souper, les enfants retournent jouer dehors avec leurs amis puis Darren va réparer la clôture pour faire plaisir à sa femme pendant que Darlie et Dana discutent. Vers 20h30, Darlie demande au garçon de rentrer puis Darren va porter Dana chez elle quelques temps après. Darren revient à la maison puis tout le monde est dans le salon et regarde la télé. Les garçons sont installés par terre, avec leurs couvertures et leurs oreillers, puis Darlie est sur le sofa avec bébé dans les bras. Darren a pris bébé Drake, puis a dit à Darlie qu'elle allait s'en charger, lui donner à boire, puis l'endormir, puis qu'elle allait regarder les nouvelles de toute façon par la suite. Il est redescendu environ 30 minutes plus tard, puis les deux y ont discuté de différents sujets. À l'heure du coucher, Darren est retourné dans la chambre et Darlie est restée dormir dans le salon avec les garçons. Elle demande à Darren de bien vérifier si la porte était barrée, puis elle continue de regarder la télé quelques minutes avant de s'endormir. Ce qui arrive par la suite donne place à un appel 911 à glacer le sang. L'appel a été logé dans la nuit à 2h31.
What's going on, ma'am?
Selon la version donnée par Darlie à la cour, Darlie dormait sur le divan, puis elle s'est fait réveiller par Damon qui lui tapait sur l'épaule en lui disant « Maman, maman ». Darlie était semi-réveillée lorsqu'elle a aperçu un homme s'éloigner du salon. Darlie s'est réveillée, puis elle a entendu un bruit de verre cassé. Elle s'est avancée avec Damon en arrière d'elle, puis ils se sont rendus dans la cuisine où il faisait noir. Elle a vu l'homme aller dans la pièce à débarras, qui était juste avant d'aller au garage. Elle a allumé la lumière, puis elle s'est rendue à l'îlot au milieu de la cuisine, puis c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait du sang partout sur elle, puis qu'il y avait un couteau par terre à l'entrée de la pièce à débarras. Son premier instinct a été de prendre le couteau, puis de le mettre sur l'îlot, puis elle est retournée au salon, puis c'est là qu'elle a vu Davin allongé par terre, les yeux ouverts, avec de grosses coupures. Darlie s'est mise à crier, puis elle s'est retournée vers Damon, qui était debout, puis elle s'est mise à l'examiner pour voir si lui était blessé, puis elle a vu qu'il y avait de grosses plaies dans son dos. Elle a couru allumer toutes les lumières, puis elle a crié à Darren, qui est descendu, d'aller voir Davin. Il est allé aux côtés de Davin, puis Darlie a été prendre un téléphone et des serviettes dans le tiroir, qu'elle a ensuite mouillé. C'est environ ce moment-là qu'elle a composé 911, puis en même temps, elle est allée mettre des serviettes sur le dos de Damon en lui disant « tenir bon ». Et sa réponse aurait été plus tard ses derniers mots « Ok, maman ». Darlie est allée voir Darren, qui faisait le bouche-à-bouche à Damon, puis elle pouvait voir qu'il y avait du sang qui sortait d'une plaie sur le côté de son torse chaque fois que Darren soufflait dans sa bouche. Darlie savait pas quoi faire. Elle a mis le reste des serviettes sur le torse de Davin, puis est partie en courant dans la rue. Elle a crié à Karen de venir les aider. C'était son amie infirmière. Elle est ensuite retournée dans la maison, où elle a continué de mettre des serviettes sur les blessures de ses garçons et faisait des allers-retours vers le lavabo. C'était le chaos. À un moment donné, un policier est arrivé, puis rappelons-nous que Darlie est encore au téléphone avec le 911. Elle était à côté sur sa balayeuse, parce qu'elle avait de la difficulté à respirer, puis elle se sentait étourdie. C'est dans ce bout-là de l'appel 911 que ça devient vraiment chaotique. Darlie parlait à l'agent Waddle, qui est arrivé sur les lieux, en même temps qu'elle parlait à son mari, et en même temps elle parlait à la répartitrice 911. C'est pour ça que la conversation dans l'appel 911 fait pas full de sens. Un deuxième agent est arrivé, puis il a dit à Darlie de s'asseoir, ce qu'elle a fait. Les deux agents sont partis vers le garage, puis les paramédics sont arrivés. L'un est allé vers Davin, puis l'autre vers Damon. Darlie a vu l'ambulancier mettre sa main sur le cou de Damon, puis elle a demandé s'il était mort. L'ambulancier répondait pas, mais lorsqu'il l'a pris dans ses bras, elle a vu que les yeux de Damon étaient ouverts puis qu'il bougeait plus. À ce moment-là, Darlie a été reconduite dans une ambulance, puis il y avait plein d'allers-retours dans la maison. Il y avait plusieurs policiers, ambulanciers, pompiers sur place. Puis il y avait aussi plein de gens du voisinage à l'extérieur qui se demandaient ce qui s'était passé. Darlie savait que ses deux petits garçons étaient morts. Rendue à l'ambulance, Darren a fait remarquer à Darlie qu'elle avait plus de sous-vêtements, ce qu'elle avait encore quand elle s'est endormie. Les policiers ont demandé une description du suspect. Clairement, il n'était plus dans la maison. Puis Darlie ne l'avait pas vu sortir ou quoi que ce soit dans l'énervement. Il faisait noir quand elle a vu l'homme en question, mais elle a réussi à dire aux policiers qu'elle pensait que c'était un homme de race blanche parce qu'il avait les cheveux mi-longs droits, avec une casquette foncée sur la tête, un t-shirt de couleur foncée et des jeans. Darlie est restée 3 jours à l'hôpital. Elle avait des blessures superficielles puis une grande coupure de gauche à droite sur sa gorge. Lors de sa sortie de l'hôpital, Darlie a été directement avec les policiers au poste pour qu'elle puisse donner sa déclaration. Par la suite, elle est allée directement à une vigile organisée pour ses garçons. Le lendemain, c'était les funérailles de Davin et Damon. Puis ensuite, il y a eu une petite célébration avec des ballons puis plein de trucs festifs à la pierre tombale des garçons parce que c'était la fête de Davin. Et de son vivant, le petit garçon souhaitait plus que tout avoir 7 ans. Ce sont les sœurs de Darlie qui ont organisé la fête puis ont décidé de célébrer, ce qui leur a valu beaucoup de critiques. Il y a une vidéo où on peut voir Darlie très heureuse, festive, avec les membres de sa famille. Elle a été arrêtée la journée d'après et placée sous surveillance due au haut degré suicidaire. Le procès a débuté le 21 octobre 1996. Le 30, Darlie a témoigné, puis vous pouvez même avoir accès au script sur Internet. C'est très long à lire, je vous avertis, je l'ai fait. Puis c'est ce qui m'a le plus perturbée. Je vais vous mettre le lien en description si ça vous intéresse. Le 1er février 1997, Darlie Routier a été déclarée coupable du meurtre de Damon Routier seulement. Le 4 février de la même année, elle a eu sa sentence, peine de mort par injection létale. Elle fut admise à la prison de Gatesville au Texas, où elle est encore aujourd'hui 27 ans plus tard. Maintenant, plusieurs versions se contredisent et c'est là qui est le rabbit hole. Je ne veux pas vous mêler plus que vous allez l'être déjà, fait qu'on va se concentrer sur les différentes personnes impliquées. Question de brouiller les cartes puis vous mettre dans le doute autant que moi. La version de l'agent Waddle. L'agent Waddle est arrivé sur les lieux, puis a vu un homme sortir en courant. C'était Darren qui disait qu'il allait chercher une infirmière de l'autre côté de la rue. Widow est entrée à l'intérieur puis a vu les deux petits garçons couchés au sol, puis Darlie était à côté sur le bord, entre la cuisine puis le salon, avec une serviette sur son cou. Darren est revenu puis a continué les manœuvres sur son fils. L'agent Widow ne va jamais oublier cette scène. Il en parle avec beaucoup d'émotion durant une entrevue, puis dit que Darlie n'avait pas l'air de se préoccuper de ses garçons parce que la première chose qu'elle a demandé, c'est si ses bijoux étaient corrects sur le comptoir, s'ils avaient été volés. Puis, elle a parlé du couteau qui a servi à tuer à ses enfants. Elle a dit qu'elle l'avait pris, qu'elle avait gâché les empreintes. L'agent Waddle croyait qu'il y avait un intrus dans la maison, puis quand son collègue est arrivé puis qu'ils ont fouillé, ben ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne. Il était certain que quelqu'un allait sortir de nulle part en fouillant la maison, mais il n'y avait vraiment personne. Il y avait seulement le moustiquaire d'une fenêtre du garage qui avait été déchiré avec un des couteaux dans la cuisine des routiers. Le moustiquaire avait été coupé en forme de T avec un couteau pour trancher du pain. Pas celui qui avait servi au meurtre, mais bien l'un des couteaux qui avait été remis dans le bloc à couteau. Le couteau, il y avait des particules qui correspondaient aux particules qui avaient été coupées sur le moustiquaire. Donc, faudrait croire qu'un intrus est entré dans la maison par magie, qui a été prendre un couteau dans la cuisine, il a coupé la moustiquaire, puis a été remettre le couteau à sa place, puis a pris un autre couteau pour commettre le crime. De plus, qu'est-ce qui pouvait expliquer que Darlie avait des traces de sang de ses garçons à l'arrière de sa jaquette de nuit? Si ce n'est que le geste de poignarder tellement fort qu'il faut un élan, qu'il faut prendre un élan, puis dans cet élan-là, avec le couteau, il y a des gouttes de sang qui auraient volé en arrière. L'agent Widow a dit que les garçons avaient été poignardés tellement fort que le couteau avait transpercé leur petit corps puis avait atteint le plancher en dessous d'eux. De plus, la jaquette de nuit de Darlie avait des gouttes de sang de ses enfants sur l'avant. Pas des traces de sang laissées par ses enfants parce qu'elle essayait de les sauver, ni des traces de sang qu'elle aurait essuyées. Des gouttes précises sur son épaule droite et son épaule gauche. Les experts ont analysé que les gouttes de sang avaient tombé vers le haut et l'extérieur de la jaquette, qui correspond au geste de poignarder à répétition. Le procureur Greg Davis a dit que lorsqu'il avait rencontré Darlie, il était loin d'imaginer une mère qui avait tué ses enfants. Mais la personne qu'il a rencontrée était, je cite, « evil », égoïste, dans le déni clairement et prise dans ses propres mensonges. C'était une femme malheureuse qui n'était pas bien avec elle-même puis qui avait des problèmes financiers. Quand il a regardé le dossier, il a vu que le couple était tellement endetté qu'il avait pris un prêt pour payer certaines dettes puis qu'il n'était même pas capable de payer le prêt. Il était en retard de 2 mois sur leur hypothèque et leur carte de crédit. Mais ils avaient des meubles neufs, des véhicules neufs, une grosse maison puis un bateau. Ils vivaient clairement au-dessus de leurs moyens. Greg Davis n'a pas arrêté de demander à la police ce que Darlie avait dit qui s'était passé parce qu'il n'était pas capable de donner un sens à tout ça. Les morceaux ne collaient pas. Il savait que le vase qui avait été cassé dans la cuisine avait été « stagé ». J'ai oublié le mot en français, je suis désolée. Que la balayeuse avait été placée dans la cuisine après les faits par Darlie parce qu'il y avait des empreintes de sang des pieds de Darlie en dessous. Au moment des événements, ce cas était celui qui avait récolté le plus d'échantillons d'ADN dans tout l'État, soit plus de 100 échantillons qui ont été testés. Ils ont littéralement été capables de recréer une map de la scène de crime juste avec des échantillons. Tous les échantillons testés appartenaient à 3 personnes. David, Damon et Darlie Routier. Absolument rien n'indiquait qu'il y avait eu un intrus. Il y a eu aussi un bas qui a été retrouvé 75 mètres plus loin de la maison, puis il contenait le sang des 2 garçons. Ce bas appartenait à Darren. Ce que Greg Davis trouve étrange, c'est que le bas avait été laissé là, à côté d'un bac de recyclage puis d'un canal, comme si la personne voulait qu'il soit retrouvé. Pourquoi quelqu'un aurait laissé ce bas bien à vue de tous? Comme un meurtrier aurait voulu cacher cette évidence-là, le jeter dans le bac ou dans le canal qui était juste à côté. Greg Davis est convaincu que Darlie l'a placé là, et par exprès. L'enquêteur principal au dossier, Bill Parker, a mentionné qu'il était complètement convaincu que Darlie était la coupable du meurtre de ses enfants. Il n'y en avait aucun doute. Tout pointait vers elle et pas personne d'autre. La déclaration qu'elle avait donnée, selon lui, n'était même pas proche de la vérité. Il y avait quelques doutes au début à propos de l'implication de Darren Routier dans toute cette affaire-là. Puis depuis le début, Darren Routier a proclamé l'innocence de sa femme. Aujourd'hui, Darren est divorcé de Darlie et est maintenant remarié. Stephen Cooper, l'avocat de Darlie après sa condamnation, mentionne que sa cliente est innocente et que de nouveaux éléments permettant de prouver son innocence sont apparus après le procès. Il mentionne aussi que les évidences au dossier ont été principalement basées sur les opinions d'experts qui n'étaient pas qualifiés. Il se basait sur quoi pour dire ça? Je ne sais pas. Il n'aurait pas tout vérifié selon lui. Pour ce qui est de la vidéo de Darlie à la tombe de ses enfants, Stephen Cooper mentionne que ce n'est pas un acte criminel et que même l'avocat de la défense était d'accord. Selon lui, la vidéo a servi au public et au jury à déterminer si Darlie était coupable ou non, et la plupart ont choisi de croire qu'elle était coupable parce que, ben, quel genre de mère sourit, rit et fait la fête à la pierre tombale de ses enfants quelques jours après leur mort? C'est pas le comportement d'une mère en deuil, mais c'est pas le comportement d'une mère en deuil, mais selon qui? Pour la peine de fin, c'est vraiment chaotique comme je vous disais au début. Darlie est paniquée, hystérique, puis elle crie que ses enfants sont morts. Elle parle à son mari en même temps, la répartitrice parle aux policiers en même temps. Elle-même a l'air paniquée, puis dans ce temps-là, ça l'aide pas la plante à se calmer, puis à comprendre ce qui se passe pantoute. Darlie finit par dire qu'un homme est rentré, a poignardé ses bébés, puis l'a poignardé elle. Elle s'est réveillée, puis elle s'est débattue. L'homme est parti en courant dans le garage en laissant le couteau derrière lui. Elle répète que ses bébés sont en train de mourir, qu'ils sont déjà morts. La répartitrice n'est aucunement rassurante, comme un gros zéro. Elle dit juste de se calmer, puis de rester en ligne. On entend Darlie dire à l'un de ses enfants de tenir bon, puis on l'entend crier le nom de Karen. Après 2 minutes dans l'appel, la répartitrice lui demande s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, mis à part elle et ses enfants. Elle dit que non, mais que son mari était là, puis qu'il venait de descendre pour venir l'aider. 1 minute après, l'agent Waddell rentre dans la maison, puis Darlie crie que quelqu'un a tué ses bébés, puis que quelqu'un est parti en courant par le garage pendant qu'elle dormait. Elle explique au policier qu'il y avait un couteau, la répartitrice lui demande « il y a un couteau, touché à rien », puis Darlie répond qu'elle a déjà touché le couteau parce qu'elle l'avait ramassé. C'est tellement chaotique, comme la répartitrice parle au policier pour savoir si quelqu'un était arrivé. Après ça, elle demande à Darlie si la porte d'entrée était débarrée, mais le policier était déjà sur les lieux. Darlie, qui parle probablement au policier, dit que le couteau était par terre, puis qu'elle avait déjà ramassé, puis qu'il aurait pu avoir les empreintes peut-être si elle n'avait pas fait ça. La répartitrice devient un peu plus empathique vers la fin, puis elle demande à Darlie d'aller voir l'agent. 24 ans après la soirée du 5 juin 1996, une entrevue a été faite sur la chaîne Our Life. Darlie a encore été questionnée à l'intérieur des murs de la prison où elle est encore aujourd'hui. Je vais vous mettre un lien dans la description, puis c'est super intéressant de voir Darlie raconter l'histoire même après 24 ans, puis toujours proclamer son innocence. Elle a même refusé une offre qui l'enlevait de la peine de mort si elle avouait être coupable. Honnêtement, je sais toujours pas comment penser. Cette histoire-là me bouleverse. Elle m'a mis à l'envers. Je pense que c'est la première fois depuis le début de 9-1 Behind the Scene que je parle d'un cas qui me laisse avec autant de questions. Si elle est coupable, comment expliquer tous les bleus qu'elle a eu sur le bras et sa coupure au cou qui est passée à 2 mm d'atteindre la carotide? Elle aurait pu s'infliger ses blessures elle-même, mais à quel point? Justement, quand elle est sortie de l'hôpital, elle a montré ses bras aux policiers, puis elle avait des énormes ecchymoses sur ses bras. Je vais vous mettre des photos. Mais elle n'avait pas ça à l'hôpital. Les médecins qui l'ont examinée ont même confirmé que ces ecchymoses-là lui ont été faites après la nuit des meurtres, puis que c'était probablement Darlie elle-même ou quelqu'un d'autre à qui elle a demandé, qui s'était infligé ces blessures-là pour essayer de prouver son innocence. Puis comment ça se fait qu'elle se souvient de rien? Comme son premier souvenir, c'est son gars qui lui tape sur l'épaule, d'ouvrir les yeux puis de voir un homme s'éloigner. Comme à quel point tu dois dormir dur pour pas entendre tes enfants se faire poignarder. Ils ont pas crié. Comme un enfant qui se fait attaquer pendant qu'il dort n'a peut-être pas le temps de crier. Il est pris par surprise, il dort. Mais le deuxième, ils ont été poignardés tellement de fois et fort que je peux pas croire que le plus jeune, il a pas entendu son frère se faire attaquer. Puis Darlie s'est fait attaquer, poignarder, puis enlever sa petite culotte, en plus de ses enfants qui se sont fait attaquer juste avant. Tout ça dans un sommeil profond. Puis Darren, il a rien entendu, lui. Il dormait en haut. D'un autre côté, la famille avait planifié un voyage en Pennsylvanie pour le 14 juin. Les billets d'avion étaient déjà achetés. Il n'y avait même plus d'argent. Fait que pourquoi dépenser de l'argent pour un voyage en famille, puis tuer tes propres enfants quelques jours avant? Ça fait pas de sens. Si Darlie avait vraiment voulu tuer ses garçons, elle aurait pas attendu d'être certaine que les deux soient morts avant de faire le 9-1-1 aussi. Puis si elle les avait tués pour l'argent, ça fait pas de sens, parce que les assurances payaient seulement 10 000 $ pour les deux enfants, tandis que Darren, lui, en valait 80. Même que plusieurs voisins ont mentionné avoir vu une voiture noire se promener dans le quartier, puis l'ont vu s'arrêter plusieurs fois devant la maison des routiers. Darlie en a même été témoin, mais croyait que c'était parce que la personne avait vu que le garage était ouvert, qu'il y avait une vente de garage qui se préparait. La voiture l'a quitté vite quand le chauffeur a remarqué que Darlie l'avait vue. Elle n'en a pas fait de cas. 5 ans après le verdict, des nouvelles preuves sont apparues. Puis des nouvelles ont continué à apparaître plusieurs années pour essayer de prouver son innocence. Grâce à un enquêteur privé, Darren Routier aurait avoué 4 ans plus tard que sa compagnie était tellement endettée qu'il aurait demandé au beau-père de Darlie, Bob Key, s'il connaissait quelqu'un qui pourrait rentrer dans la maison et faker une introduction par effraction pour qu'il puisse retirer l'argent des assurances. Darren a confirmé qu'il n'a jamais mené le plan à terme. Est-ce que finalement, il l'aurait fait et ça expliquerait l'intrus dans la maison? Est-ce que Darlie était au courant? Est-ce que le beau-père était impliqué? Est-ce que le couple était de connivence? Si Darren avait avoué au moment du procès son plan, est-ce que le verdict aurait été différent? Je vous invite à regarder l'entrevue, en fait les deux entrevues que je vais vous mettre en description. Il y en a une 15 ans après, puis l'autre 24 ans après. Vous pouvez faire vos recherches aussi, le nombre d'articles qu'il y a. C'est incroyable. J'ai jamais vu autant d'articles. J'ai tellement fait de recherches, puis en même temps, je pouvais pas tout regarder. Il y avait trop de choses. Donc voilà, c'est ce qui termine l'épisode intense d'aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir pris 1000 ans à l'écrire, même que j'ai évité de trop écouter l'appel 911 parce que la panique puis le désespoir de Darlie vient trop me toucher. Je suis comme pas capable. À quel point ce serait de l'acting, mettons. Ok, j'arrête avec mes questions, sinon on va être encore ici demain matin. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais ça connaître vos opinions, s'il vous plaît. Vous pouvez m'écrire en DM ou sous la publication, peu importe. J'aimerais vraiment ça vous entendre. Si vous en voulez encore plus, abonnez-vous à Patreon pour des épisodes à l'avance, des vidéos exclusives et bien plus. Si vous voulez encourager le podcast d'une autre façon, ben vous pouvez toujours laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et ou laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Sur ce, je m'en vais respirer parce que ça m'a mis dans un drôle d'état, ces recherches-là et cet épisode-là. Donc, on se reparle très bientôt. Bye!
A new year, time for new growth. Grow your education and skills with Herzing University. Our online behavioral health programs fit your schedule and time. From an 8-month diploma program in health and human services to a 36-month bachelor's in psychology. Grow your behavioral health career with us wherever you are in your education. Your future starts now at Herzing University. Visit us online at herzing.edu or text health to 85109. Online at herzing.edu or text health to 85109.